France Culture, La Grande Table, Olivia Jesbert.
Je ne sais pas à l'avance ce que va devenir une chanson quand je la commence. Mais l'idée qu'une chanson a une fonction, oui. Si vous êtes dans une fête de mariage qui est 3h du matin et qu'on vous demande de chanter, il vaut mieux chanter Les Sardines de Patrick Sébastien qu'Avec le temps. Si vous devez rompre avec la femme que vous aimez, vaut mieux chanter Avec le temps que Les Sardines. Pour moi, une bonne chanson, c'est une chanson qui remplit sa fonction. Si sa fonction, c'est de faire marrer les gens en faisant la chenille, eh ben, si elle y arrive, elle est bonne. Alors, il y a plein de fonctions.
Maxime Le Forestier, pour une définition d'une bonne chanson ou de la chanson populaire. La chanson populaire suite dans la grande table des idées. Pourquoi la pop est-elle aujourd'hui impopulaire? À la fois mainstream, musique qui se vend extrêmement bien, et méprisée, jugée trop légère, consommable, jetable, autrefois fédératrice, la pop ne rassemblerait plus totalement. Alors la faute à qui, à l'époque, aux recettes de l'industrie culturelle ou au manque d'ambition artistique peut-être de cette musique? Mais d'abord, qu'est-ce que la pop? Quelle singularité technique et surtout artistique. Avec nous, le comédien et réalisateur Alex Lutz, dont le film Guy sort en salle, hommage aux 60s, à la chanson populaire, et Agnès Guéraud, qui nous a rejoint, philosophe et musicienne, voix du groupe La Féline, auteur de Dialectique de la pop à la découverte, un essai qui entend dégager la forme pop, comprendre, et là je vous cite, comment la musique populaire enregistrée a produit au siècle dernier non un avatar moderne dégradé de la musique, mais un autre art musical. Bonjour Agnès Guéraud.
Bonjour.
Est-ce que vous vous souvenez l'un et l'autre de vos premières émotions pop? Alex Lutz, est-ce qu'à partir de ça, vous arriveriez à nous donner une définition de ce qu'est pour vous la pop?
Effectivement, un objet qui emprunte à de l'artistique d'avant, mais qui se consomme, qui se presse, qui se passe, qui s'enregistre, qui se compile, qui se met sur des cassettes, des formats, et puis un esprit après. Un esprit qui d'abord n'est pas d'accord, qui rassemble des gens pas d'accord, et après, vu qu'ils sont tous pas d'accord avec cette idée pas d'accord, et ben, il faut en changer pour qu'il y en ait une nouvelle qui arrive.
Est-ce que Daddy Dou est une bonne musique et est-ce que c'est une chanson pop?
Te souviens-tu de notre première fois?
Je m'en souviens, on n'oublie pas ces choses-là.
Te souviens-tu, notre chanson d'autrefois?
Notre refrain faisait da-dou-di-dou-da.
Nous le chanterons encore,
pour que notre amour soit plus fort,
que le monde entier le sache alors. Notre chanson, mon cœur, qui nous remplit de bonheur. Et tu chantes,
je chante,
da-dou-di-dou-di-da, et mon amour reste à toi.
Alex Lutz en Guy, en duo avec Élodie Bouchèze dans votre film Guy, cette chanson composée spécialement, c'est pas une reprise,
non,
composée, arrangée pour le film dont sort d'ailleurs l'album, la bande originale. Agnès Guéraud, ça c'est une chanson populaire, ça sonne comment à votre oreille?
Oui, bien sûr, enfin, on a tous les traits caractéristiques, le refrain, le caractère mémorable, assez rapidement mémorisable, il y a beaucoup de... Il y a un goût de la légèreté et il y a quelque chose qui est plus rarement relevé dans les chansons, mais qui est pourtant qui les caractérise pour beaucoup, c'est la réflexivité. C'est une chanson qui parle d'elle-même. Et ça, on le retrouve évidemment dans la pop aussi, ce regard d'un morceau sur lui-même, cette façon qu'a le morceau de se rapporter à lui-même. Donc de chansons, on connaît chanson, toi qui ne veux rien dire, ben voilà, on a une nouvelle version de cette réflexivité.
Est-ce que vous êtes d'accord avec la définition qu'Alex Lutz nous a donnée de la pop pour lui? Alors après, votre livre entier est une définition de la pop ou une tentative de compréhension de où est née la pop, ce qu'elle est aujourd'hui, les valeurs qu'elle véhicule et son sens artistique et philosophique. Mais voilà, en quelques mots, si vous deviez...
Il a été très prudent, Alex Lutz, parce qu'il a dit des choses très différentes et en même temps, il a manié un peu la la contradiction, en parlant de forme, d'une forme vis-à-vis de laquelle on est à la fois pas d'accord et qui réunit des gens pas d'accord. Donc, quand on fait un livre qui s'appelle Dialectique, et ben, on a ce rapport à la contradiction. Donc je peux en partie, voilà, être bien sûr d'accord avec ce qui est dit. Après, voilà, le travail, moi, que j'ai proposé, c'est vraiment un effort de clarification théorique. C'est pas du tout du surplomb. J'avais tout le temps en tête des musiciens. Je suis moi-même musicienne. J'ai eu beaucoup de discussions, des critiques et des œuvres, bien sûr. Quand j'écrivais, donc c'est pas du tout un livre pour dire ce qu'est la bonne pop. Et par opposition à la mauvaise, c'est pas un tribunal esthétique. C'est vraiment un effort de se demander qu'est-ce que c'est que la différence de la musique populaire enregistrée par rapport à d'autres formes de musique qui seraient donc écrites ou improvisées ou folkloriques. Et il me semble que c'est pas tant que la pop est impopulaire, je pense qu'elle est très populaire et c'est sa définition en partie, mais c'est plutôt qu'elle est en effet un petit peu méprisée, en tout cas sur le plan théorique. Et j'ai travaillé sur un auteur, Théodore Adorno, qui était un grand spécialiste de la musique savante, en particulier du modernisme, et il écrit à propos du jazz. Alors pour lui, le jazz, c'est le swing des années 40, et c'est une musique légère qui est radiodiffusée. Et il entend cette musique et il la trouve insupportable. Enfin, il trouve qu'elle est trop légère, qu'elle est trop facile. Et donc, il a pas mal écrit, il a pas mal travaillé sur cette forme musicale de façon totalement hostile, mais passionnante. Et c'est aussi en réponse à ça, à ces arguments qui, en fait, sont présents chez beaucoup d'amateurs de musique savante. Hein. On les retrouve très vite. Ah oui, mais c'est une musique inférieure. Ah oui. Et donc, moi, ce discours sur la pop comme musique inférieure, qui m'en est totalement folle, et non, je pense que c'est un art à part entière, et tout le livre est à l'effort de montrer ça.
Et d'ailleurs, vous ouvrez cette réflexion avec le mot condescendance. Vous avez voulu analyser, réfléchir à ce qu'est la pop aujourd'hui sans condescendance, qui nous ramène à la question du mépris, c'est-à-dire la manière dont on regarde aujourd'hui ces artistes d'hier, ces idoles d'antan, et où on projette peut-être aussi sur ces figures le mépris qu'on peut avoir aujourd'hui pour leur musique, ces tubes qu'ils ont pu à un moment produire, porter aussi, qui sont d'une certaine manière démodés et qui nous font, nous, à nos regards, et on va tenter de le comprendre, pourquoi ressentir cela.
Mais après, moi, ça fait écho aussi, je ressens ça avec le sketch, par exemple. Venant du théâtre plus contemporain, quand j'ai après fait des spectacles seuls en scène avec des sketchs, c'est une sous-forme, alors que il n'y a pas de raison a priori que ça soit très différent d'une autre forme découpée, écrite, un poème. Et il y a cette chose-là aussi. Après, il y a quand même aussi à un moment donné d'autres métiers qui se sont collés à ces arts-là, de manière très forte. Et qui les ont exploités pour les rendre populaires. Alors c'est, forcément, je pense que c'est plutôt ça en fait qui rend hostile, et du coup ça abîme l'objet lui-même, qui n'est pas abîmable en soi, parce que l'objet il est ce qu'il est, mais le fait que ça soit un objet qui se vend, donc qu'on market, qu'on met une image à côté, qu'on choisisse la couleur, les lettrages, et qu'on met un prix, et qu'on y trouve une cible de consommateur ou quoi, je crois que ça crée un discours collé à l'objet, alors que c'est pas l'objet qui est concerné en fait.
Qui se vendent très très bien, parce que c'est aussi ce que vous expliquez, Agnès Guéraud, ce plébiscite du public pour cette musique a aussi contribué à dévaloriser l'art en fait, ou la valeur artistique qu'elle pouvait en avoir. Exemple avec.
Purple rain, purple rain, purple rain, purple rain.
Exemple avec Purple Rain de Prince, sorti en 84, on aurait pu choisir Sgt. Pepper, ceci que vous décryptez.
Alors je m'élève vraiment là, je pense pas que le plébiscite dévalorise les œuvres.
Mais il y a quand même ce côté-là, c'est parce que ça marche, parce que cette musique touche le plus grand nombre, que pour certains c'est forcément de la soupe sans valeur artistique.
Là en l'occurrence, pour moi c'est un chef-d'œuvre ce morceau, en l'occurrence c'est vraiment un chef-d'œuvre pop, et c'est le hit en pop, c'est l'idée du chef-d'œuvre. Justement c'est ce que j'essaie de montrer dans le livre, c'est ce moment, s'il y a une promesse dans la musique populaire enregistrée, c'est un moment, une musique qui réconcilierait l'art et le plébiscite. Or, dans l'histoire de la pop, c'est arrivé, ça continue d'arriver. Alors après, il y a des jugements esthétiques, bien sûr, qui médient tout ça, mais pour moi, il est très très important de surtout pas penser que le plébiscite est la cause de mauvaise qualité musicale, parce que c'est justement la promesse pop. Et je la trouve, en fait, dans une figure très ancienne qui est dans la flûte enchantée de Mozart. Il y a une scène comme ça où il y a Tamino qui joue de la flûte et tous les animaux de la forêt se rassemblent autour de lui et sont fascinés par cette musique, sont réconciliés, comprennent sans effort, sans nécessité de connaître ce qu'est la musique, ils comprennent la beauté de ce qu'ils entendent. Et je crois qu'au fondement de la pop, il y a cette promesse-là de quelque chose qui ravirait comme ça instantanément.
Cette instantanéité aussi.
Voilà, sans initiation fastidieuse à la vérité musicale. Pourquoi ça devient une dialectique et problématique aussi à partir de là? C'est que bien sûr, cet idéal de popularité, qui pour moi est un idéal esthétique, c'est pas du tout... c'est pas prioritairement un idéal industriel, mais c'est aussi un but industriel. Et bien sûr, tous les hits ne sont pas des chefs-d'œuvre.
Elle est là la principale pour vous contradiction, c'est-à-dire à la fois dans ces conditions de production par une industrie culturelle entre guillemets de masse, et l'envie pour l'artiste d'y exprimer quand même sa subjectivité.
Oui, bien sûr. Alors c'était aussi un souci pour moi dans ce livre, c'était de parler de la musique populaire enregistrée sans forcément la battre nécessairement sur un art de masse. Pour moi, Robert Wyatt, c'est de la musique populaire enregistrée, et c'est pas très connu, ou un petit groupe indé des années 80 comme Felt, ou on pourrait prendre mille exemples, ou des morceaux de country de Jimmy Rogers qui était extrêmement connu dans les années 20. Donc je voulais vraiment arriver à penser qu'est-ce que c'était que cette forme musicale comme art, et pas seulement comme phénomène sociologique justement, ce à quoi on a beaucoup tendance à ramener la pop, alors que ce qu'elle a produit, ce sont des œuvres ratées, des œuvres réussies, des chefs-d'œuvre. Mais c'est le geste, il est vraiment là d'arriver à arracher un petit peu ce rapport à la pop qui serait simplement comprise comme un art de masse, alors que non, il y a des choses. Je sais pas, Yellow Magic Orchestra, c'était un groupe extrêmement connu, mais au Japon, puis en Occident, moins en Occident, et il est essentiel dans l'histoire de la pop. Il est très important. Donc il y a plein de groupes très importants où on connaît l'histoire du Velvet. Hein. Acheté par une centaine de musiciens, le premier album du Velvet, et on connaît l'importance qu'a eu ce groupe sur l'histoire de la pop. Donc c'est l'idée, c'est vraiment aussi d'arriver à penser que on a affaire à une forme d'œuvre et pas seulement à des produits. En revanche, ce fait que ces œuvres deviennent des produits, mais bon, après tout, c'est aussi le cas pour des œuvres littéraires ou pour des œuvres savantes. Enfin, comment imaginer qu'on pourrait être comme ça accepté de l'industrie culturelle aujourd'hui? Enfin, on est tous pris dedans. Donc, c'est pas que la pop qui est prise dans l'industrie culturelle.
Mais vous citez aussi Walter Benjamin avec ses théories sur la reproductibilité des œuvres d'art pictural, d'un tableau. Est-ce qu'elles sont transposables à la musique? Parce que c'est aussi ça la particularité de la pop, une musique enregistrée. À partir de là, on peut effectivement la reproduire. Est-ce que c'est aussi ça, finalement, ce processus de construction et de reproduction qui a endommagé, abîmé cette musique-là?
Alors, à mon sens, je suis pas dans l'idée non plus d'un déclin. Enfin, je crois que la reproductibilité, c'est une chose à penser, bien sûr, concernant la pop, parce que y a des supports nombreux, infinis, pour écouter de la musique pop, mais il faut partir, à mon sens, de l'enregistrement et de ce phénomène de captation d'un événement sonore qui va, lui, être reproductible. Mais l'événement sonore, lui, il est unique. La façon dont Led Bailey a chanté « Where did you sleep last night » quand les Lomax l'enregistrent, c'est une fois qu'il l'a fait. Donc l'œuvre, elle continue à rester unique. Je pense pas que... Et après, que la musique soit reproductible, elle l'a toujours été. À partir des partitions, elle est reproductible. Dans sa forme orale, elle est reproductible. Donc c'est pas nouveau que la musique soit reproductible. En revanche, effectivement, la multiplication des supports, elle est infinie. Mais dernière chose, voilà, que je voudrais dire, c'est que l'enregistrement n'est pas qu'un support, n'est pas qu'un véhicule, c'est aussi un médium de production des œuvres. C'est comme si on parlait de la surface et des lignes pour la peinture. C'est-à-dire, c'est une condition. Et il me semble qu'avec l'enregistrement, au contraire, on a produit des formes d'aura d'un nouveau genre. Si vous écoutez une très vieille chanson blues, ce fait que tout à coup il y a un fantôme là qui vous chante avec cette voix présente alors que le corps du chanteur a totalement disparu. C'est absolument fascinant sur le plan de ce que pourrait être l'aura au sens de Benjamin. Donc je pense que c'est une aura reproductible, certes, mais c'est une aura certaine.
Alex Lutz ?
J'adhère à tout, je veux pas dire que... après sur ce qui accompagnait, ce qu'on peut dire, le système de production, les créations de formats, etc. Je crois que ce qui a eu de si fort sur la pop et justement sur certains morceaux qui tout d'un coup ont réuni de manière si forte, je crois que même les métiers adjuvants qui ont participé à rendre populaire sont tombés dans cette gourmandise, là. Et dans, il y a quelque chose. Moi, je parlais du bœuf avec une amie comédienne. J'ai beaucoup dit par rapport à la tournée du spectacle, mais c'est intéressant par rapport à notre sujet, je crois. Elle est comédienne. Son mari est musicien et chanteur. Et ils ont fait un bœuf comme souvent après un dîner. Et puis, on était dedans, et elle me dit, regarde, ça c'est magnifique, voilà un truc qu'ils ont qu'on n'a pas. Alors, je dis, mais quoi? Elle me dit, toi tu vas pas me dire du Beckett, et moi je te réponds du Molière, et l'autre me répond une impro de clown. Et c'est vrai que la musique, même si vous n'êtes pas musicien, même si vous battez la mesure comme une armoire normande, si vous faites ça avec, vous êtes dans le bœuf, vous êtes avec. Donc il y a un moment donné où autour de cette œuvre musicale, quand la possibilité de le dupliquer avec des modes de production industrielle est arrivée, je pense qu'il y a une gourmandise incroyable avec des acteurs qui étaient acteurs dedans. Un producteur de musique, il est pas producteur de musique comme un producteur de théâtre, c'est pas vrai. Il est actif. On les a vus beaucoup dans les studios participer, syncoper, reprendre, aider le réfléchir sur le synthétiseur ou le morceau ou le unplugged ou pas unplugged. Enfin voilà, c'est à un moment donné. J'ai l'impression que tout le monde dedans est vraiment acteur, comme dans un bœuf. Et donc, évidemment, c'est formidable et ça pervertise aussi, parce que soit c'est un super groupe, soit c'est un groupe compliqué, quoi.
Oui, justement, est-ce qu'à un moment, ces acteurs-là n'ont pas pris trop de pouvoir aussi sur la fabrication des tubes?
Des acteurs extérieurs, vous voulez dire? Oui,
semi, en fait.
Oui, bien sûr. Et c'est pour ça qu'il y a tout le temps des moments dans l'histoire de la pop où il y a un retour à une espèce de solitude et au lo-fi, par exemple. C'est vraiment une réaction. À un moment, c'est l'idée que je vais faire de la musique chez moi avec mon petit enregistreur et je vais taper sur une casserole si j'ai pas de batterie, quoi. Et ça a produit une esthétique qui est extrêmement importante dans l'histoire de la pop et qui est un geste qui refuse, en effet, que l'expression de la singularité soit médié par autre chose, formaté par des contraintes autres. Mais voilà, c'est une sorte de lutte comme ça qu'on retrouve à travers toute l'histoire de la pop entre une espèce de volonté d'expression singulière et puis le format, voilà, entre la forme pop et le format. C'est-à-dire cette chose que veut l'industrie et que ne veut pas forcément celui qui fait sa chanson. Il y a un très beau morceau de Mélanie qui s'appelle « Ils ont changé ma chanson ». Un morceau de 71.
Ah oui, ils ont changé ma chanson. Ah,
super. Ça n'avait pas été repris par Arnaud et Stéphane Escher. Validé. C'est ce que nous racontait autour de cette table John Seabrook, journaliste au New Yorker, qui a écrit Hits, enquête sur la fabrique des tubes, autour d'exemples comme Taylor Swift ou encore Rihanna. Cette idée qu'aujourd'hui, on n'est plus, il ne faut pas les imaginer toutes seules derrière leur piano en train de composer leur musique, que ça répond à des codes, des règles presque industrialisées pour créer ces tubes. Là, on écoute Rihanna, on en reparle.
Come on, boy.
que la fabrication industrielle des tubes, ce processus d'industrialisation, a détruit la pop pour vous, Agnès Guéraud?
Il est là très tôt, en fait, dans l'histoire de la musique populaire enregistrée. Faut pas trop se faire d'illusions. Il y avait une rue à New York, enfin, qui est restée importante, qui est, ça m'échappe là tout de suite, mais. Attendez, bon, ça va me revenir. Tin Pan Alley, excusez-moi. Voilà, qui était la rue des éditeurs et des producteurs de musique. Et on avait déjà des gens dans des box en train d'écrire les paroles et puis les autres en train de composer. Et on a ça aussi dans les années 60 avec le Brill Building. On a ça dans la musique noire, dans la musique blanche. Donc la pop radiophonique a toujours fait l'objet d'une division du travail, d'une fabrique. Et en effet, là, le livre de Cibro qui se penche vraiment sur la pop contemporaine avec cette division du travail et qui est vraiment radicalisée. Il dit que les compositeurs composent le pont le vendredi, le refrain le lundi. Enfin, tout ça est très construit. Mais ce que je trouve très intéressant, c'est que alors même qu'on a cette industrialisation ou du moins cette standardisation de la production pop, mais qui est là depuis très longtemps, pour ce qui est de la production pop radiophonique, on a quand même besoin de quelqu'un comme Rihanna qui a une sorte de génie singulier, c'est-à-dire qu'il va chanter d'une manière, alors c'est tout redécoupé par la suite, hein, c'est pas forcément des prises uniques et tout ça, mais elle va apporter ce petit truc qui rappelle ce que la pop adore, c'est-à-dire l'événement d'une voix qui produit quelque chose que... Ah oui, en effet...
L'origine de l'objet.
Voilà, on peut le chanter, mais finalement, c'est quand même totalement singulier, totalement étrange, cette voix. Et d'ailleurs, Rihanna est très imitée, parce qu'elle a quelque chose de... Vocalement, une sorte d'accent, mais qui n'est pas vraiment un accent de la Barbade, mais qui n'est pas vraiment identifiable, une façon de compresser le son de sa voix. Et ça, c'est absolument fascinant pour les producteurs. Et donc, ils viennent chercher en elle cette idiosyncrasie, cette chose tout à fait particulière, voilà, qui va permettre de donner une personnalité à leurs hits qui sont peut-être structurés d'une manière finalement un peu standardisée, un peu conventionnelle. Et c'est l'unité des deux qui va faire que parfois ça fait un super hit. Et puis parfois ça marche pas aussi.
Oui, vraiment. Quel est l'argument de ceux qui disent la pop est de la musique inférieure ou le jazz est de la musique inférieure? C'est quoi les arguments massus, les trois arguments où ils disent que c'est à cause de ça, ça et ça?
Oh, bah c'est souvent l'argument de la simplicité. Hein, le fait qu'on va dire, regardez les petites billes, moi aussi j'aurais pu le faire, ces trois accords au piano. Voilà, d'abord un argument technique, ensuite en effet cet argument de l'industrie qui formate et le fait qu'il y a une part de vulnérabilité, il y a une caricature dans le personnage pop qui est mis en avant. Alors il n'y a pas que trois arguments, il faudrait développer sur le jazz Adorno et plus précis, mais en tout cas cet argument de la simplicité, il est fondamental. Et pourtant, de toute évidence.
C'est curieux, parce que la mélodie. Voilà.
Et quand on est compositeur de pop, enfin, on sait très bien que c'est extrêmement difficile de faire une mélodie simple. Enfin, c'est vraiment.
Ah oui, une mélodie, une harmonie, il n'y a rien de pas. Oui, d'accord.
Vous voulez l'explication d'Adorno, parce qu'elle est peut-être pas aussi simple et avec cette tentative de vulgarisation, on vous remercie Agnès Guéraud. Mais comme vous partez aussi de ce qui était sa critique, vous le dites, la pop a un ennemi, surtout en la personne de Théodore Adorno, le philosophe allemand, le théoricien de l'industrie culturelle, un ennemi objectif, écrivez-vous, mais un allié subjectif. C'était un peu un puriste et un grincheux aussi sur cette question-là, il avait une conception assez élitiste de l'art et vous commencez par raconter cette anecdote dans votre livre où en 68, il intervient à la télévision et il s'en prend à John Baez. Il dit d'elle, je trouve insupportable que quelqu'un se mette ainsi en avant et chante à propos du Vietnam sur cette musique doucereuse. Oui, il était un peu fâché. Bon, on va l'écouter.
Ich glaube allerdings, dass Versuche politischen Protest mit der Popular Music, also mit
Je pense en réalité que toute tentative pour associer contestation politique et musique populaire, c'est-à-dire musique de divertissement, est condamnée dès le départ. Et ce, pour les raisons suivantes. La totalité de la sphère de la musique populaire, même là où elle se donne des allures modernistes, est à tel point inséparable de l'ancien tempérament, de la consommation et d'une focalisation stupide sur l'amusement, que toutes les tentatives pour en tirer une quelconque fonction nouvelle restent totalement superficielles. Je dois dire que je trouve insupportable que quelqu'un se mette ainsi en avant et, quelles qu'en soient les raisons, chante à propos du Vietnam sur cette musique doucereuse. Cette chanson même, qui s'empare de l'horreur et la rend d'une certaine manière consommable, finit par arracher à l'horreur des traits qui s'adaptent à la consommation. Je la trouve en fait vraiment insupportable.
Voilà, il le dit beaucoup mieux que moi. Vous prenez cette expression de lui aussi, un bain d'acier de fun. C'était une critique du divertissement qui était inhérente pour lui à la pop musique. Les années disco ont dû le rendre complètement fou.
Oui. Mais c'est vrai que cette vidéo, faut la voir parce qu'il a, c'est vraiment un monsieur en costume gris, quoi, très très sérieux. Et puis John Baez qui est dans une sorte de générosité, comme ça, d'émotions que tout le monde partage. Et tout à coup, il nous dit non, mais c'est moi, l'âme sensible, qui trouve qu'en fait c'est horrible, c'est un monstre là que j'entends. Alors c'est très injuste, hein, parce qu'il parle. La chanson qu'on entend derrière, c'est Freedom, qui est un vieux gospel qui n'a rien à voir avec la guerre du Vietnam. Donc il y a une sorte de mélange entre guerre du Vietnam contre laquelle bien sûr a milité John Baez, mais et cette chanson qui est une chanson qui est liée à une certaine histoire américaine et tout ça. Donc c'est fascinant quand il dit ça, parce que du coup je l'appelle le hater hyperbolique, quoi. Il y a des trolls comme ça sur internet, ben lui il est maximaliste, quoi, dans son trollisme. Donc je trouve cette hostilité extrêmement stimulante, parce qu'on a justement envie d'aller chercher, d'aller comprendre pourquoi c'est un problème, l'ancien tempérament. Il veut dire par là que c'est de la musique tonale toujours, ce qui est faux, hein. Quand on regarde l'histoire de la pop, il y a de la microtonalité plus d'ailleurs que de la tonalité, donc tout ça est assez faux. Mais il se limite, voilà, à une certaine idée de la pop très restreinte. Il parle un peu à côté de l'œuvre de John Baez, mais il dit quelque chose de tellement hostile que finalement c'est stimulant pour essayer de montrer à cette intelligence majeure qu'a été Adorno au XXe siècle, hein, mais de déceler que finalement il y a une bêtise là-dessous, quoi. Il y a quelque chose qui, il y a un manque de connaissances. Donc on a envie de lutter.
Mais alors Adorno, il meurt au tournant des années 60-70, voilà, si je me trompe. Est-ce que du coup, avec, il a fait école, est-ce qu'il y a des successeurs, des détracteurs qui ont succédé à Adorno sur cette question-là? Sur cette critique de la pop.
Si, on le retrouve alors plutôt dans le monde germanique, parce qu'il est un petit peu plus connu. En France, on étudie un Adorno très lié au modernisme. On le rapporte, voilà, à Schoenberg. Enfin, c'est tout à fait normal, à Boulez. Bon, mais en Allemagne, il y a Dietrich Zön, par exemple, qui est un adornien et qui a travaillé sur la pop aussi. Donc il y a un texte très connu aussi d'un critique rock excellent qui s'appelle Grell Marcus. Voilà, qui ce texte dans un texte qui s'appelle Mystery Train, il fait une comparaison entre Adorno et le punk. Alors, ce qui est assez étonnant, là, on voit bien que Adorno est un allié subjectif. C'est qu'il dit Adorno, c'est tellement un ronchon, une figure hostile à l'industrie culturelle, que d'une certaine manière, le punk a pu se retrouver dans les arguments d'Adorno au moment où il a dénoncé cette industrie.
Ce qu'on entend un peu dans
l'intérêt. Et c'est ça, pour moi, la dialectique de la pop, c'est d'arriver à montrer qu'en fait, il y a un Adorno dans tout amateur de pop. Un petit Adorno intérieur. Et c'est d'arriver à penser ce rapport-là entre celui qui aime et celui qui détruit.
Mais on sent aussi qu'Adorno reproche d'une certaine manière à John Baez sa jeunesse. Il y a dans la pop aussi ce trait de caractère d'être une musique générationnelle, une musique qui parle à sa jeunesse, celle des 60s, de la contre-culture à l'époque. C'est le My Generation des Who, par exemple, en 65, ce reflet-là. Et Alex Lutz, la question de cette production et de la diffusion comme marqueur, on la voit aussi avec la chanson française dans les années 60, auquel votre film, Guy, se réfère. À l'époque, il y avait 3 chaînes de télé, il y avait peut-être 2-3 radios, il n'y avait pas Deezer, il n'y avait pas Spotify.
Il y avait passage télé et étiez une vedette.
Et par la force des choses, on écoutait aussi tous les mêmes trucs. Le contexte était extrêmement fédérateur, alors qu'aujourd'hui, ça change.
Mais c'est en ça que je trouve l'interview d'Adorno intéressante, parce que, à défaut de nous faire... on peut se cabrer et on peut l'écouter en se faisant... Moi, j'aime bien me faire l'avocat du diable, toujours, en me disant, tiens, c'est intéressant, quand même. C'est-à-dire que la conséquence de ça, elle est une surmultiplication des formats. Elle est effectivement quelque chose qui zappe, qui zappe, qui zappe, qui zappe, qui zappe, qui zappe, qui zappe. Des idoles qui en sont 2 minutes. On va très rapidement parler de la nouvelle Rihanna. C'est aberrant. Enfin, quand on y parle, on se dit, bah, mais t'es gentil, j'ai l'impression qu'elle est... Alors qu'on était sur des phénomènes qui avaient le fantasme d'être durable, mais qui, en son sein, faisaient quelque chose qui ne pouvait, par définition, pas l'être. Donc, c'est aussi ça qu'il dit. Il y a au-delà d'une envie de musique pure, il y a un idéal sociétal. Alors, on est d'accord ou pas d'accord, mais enfin, il y a des vraies questions quand même. Cette génération pop qui a brisé des barricades et... enfin, voilà, non, les 68 tard ont créé les premières boîtes de pub dans les années 80. Voilà. Et puis, il y a l'histoire de l'image aussi. C'est quand je vous parlais des objets adjacents et adjuvants. Il y a la musique. Moi, je suis très copain avec Lynn Renaud, par exemple, et qui est un puits de savoir sur tout ça. Parce qu'elle est, voilà, une femme qui, avec l'industrie du disque, c'est très intéressant, sa carrière. Et elle est une des premières à avoir eu musique et visage. Moi, je savais pas. Loulou Gasté, qui était quand même un producteur et un manager incroyable, qui était son mari, lui a dit tu es connu, tu as une voix, tu as un répertoire, je veux que tu aies un visage. Alors, il l'a foutu sur une carriole du Tour de France, et puis tout d'un coup, elle a eu un visage pour les gens. Mais ça a l'air de rien. On se rend pas compte la révolution que c'était. C'était aussi important que le passage au MP3 ou iTunes maintenant.
Après, il y a une histoire française, quoi. À la fois, c'est l'ORTF, voilà, avec ce côté très centralisé.
Oui, l'apparition aussi après du Top 50, qui était quand même un véritable faiseur de tubes aussi, des radios libres.
Qui était déjà accéléré par les formats et les images, et après, et ça s'est redémultiplier.
Mais il y a plus de multiplicité. Enfin, si on voit dans l'histoire américaine, c'est quand même déjà beaucoup plus divers. Il n'y a pas ce côté chaîne centralisée. Enfin, c'est vrai que Michael Jackson, par exemple, est une star universelle. Mais à un moment donné, et d'ailleurs, en faisant des pubs pour Pepsi, c'est pas ça qui fait que c'est génial. Bien sûr, c'est autre chose, c'est ses morceaux. Mais la techno qui naît à Détroit, le hip-hop qui se développe, enfin, tout ça est très souterrain. Il y a des radios indépendantes très tôt aux États-Unis. Il y a des diggers, les Lomax. Je parlais de ces folkloristes, voilà, quand enregistraient les premiers bluesmen, ils faisaient des soirées dans les années 60 où il y avait tous les folkeux de New York qui allaient voir des types qu'on sortait de prison comme ça et qu'on allait écouter chanter. Donc c'est quand même une histoire qui est toujours été pluriel, et encore on ignore toute la pop, je sais pas, la pop indonésienne, même la pop africaine. Enfin, c'est extrêmement riche, et c'est vrai qu'il faut peut-être pas qu'on confonde l'histoire de l'industrie culturelle dans ce qu'elle, voilà, dans
ses,
dans
une digestion,
ses formes monopolistiques et puis la variété des productions.
Et aujourd'hui, dispersion, rareté, fragmentation, des choix plus identitaires aussi pour ceux qui écoutent la musique par cette offre qui est complètement différente. Et vous l'écrivez, Agnès Guéraud, au XXIe siècle, plus de king of pop, mais des petits rois et reines régnant sur les contrées parcellisées du mainstream. Alors on dit quoi, la pop est morte, vive
non,
la pop.
Loin de là, ouais. Je pense que c'est très bien que ça se parcellise. Enfin, je veux dire, même si je pense que en amont de l'idée de la pop, il y a ce que j'appelle une utopie de la popularité, qui est une forme de réconciliation, comme si tous, comme ça, nous écoutions une musique, je sais pas, en écoutant Beat It au fin fond de l'Afrique, et tout le monde va se mettre à danser, quoi. Et ça, c'est quand même la magie de la pop. Mais en même temps, je pense que c'est très, il y a aussi une puissance normative de tout ça, et que le fait que ça se parcellise est aussi le signe que, il y a des protestations, il y a d'autres formes. Et en un sens, je trouve que, d'une certaine manière, ça se parcellise pas assez. Par exemple, le hip-hop, qui était une musique très identitaire, c'est devenu le mainstream contemporain. Et ça commence à devenir, presque une forme assez imposante, assez normative de ce qu'est la pop aujourd'hui. Donc voilà, pour moi, c'est pas un déclin. Tant mieux s'il y a plusieurs rois.
Un double exercice de réhabilitation, le vôtre, Agnès Guéraud, dans Dialectique de la pop comme art musical, et puis le vôtre, Alex Lutz, avec Guy, votre film. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à toute l'équipe de La Grande Table, à la programmation préparation toute cette semaine, Oriane Delacroix et Henri Leblanc pour La Grande Table Culture, Maya Neskovic et Laura Dutèche-Pérez pour votre Grande Table des Idées, avec l'aide précieuse de Jordan Joseph et de Jeanne Copé. À la réalisation aujourd'hui, Perrelo Grand.